Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio. Bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver et de passer une heure en musique avec vous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir dans notre studio d'IDFM Radio le pianiste Pierre Réac, qui poursuit la réalisation d'une intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven, avec la parution d'un triple album sous le label Anima Records, après un double album paru en 2021, dont nous avions d'ailleurs vanté les qualités à ce micro. Bonjour Pierre Réac.
Bonjour.
Rappelons votre parcours pour nos auditeurs. Vous êtes disciple de la grande Yvonne Lefébure, puis d'Yvonne Loriot au CNSM de Paris. Vous vous êtes perfectionné à Londres auprès de Maria Curcio, qui était la principale disciple d'Arthur Schnabel, un immense interprète de Beethoven. Vous avez bénéficié des conseils réguliers de formidables pianistes comme Arthur Rubinstein, Alexis Weissenberg et Paul Badura-Skoda. Vous avez été lauréat de 5 concours internationaux et depuis vous poursuivez une carrière internationale et vous donnez des récitals et des concerts avec orchestre dans tous les pays d'Europe et aussi au Japon, aux États-Unis, en Israël, en Chine et en Corée du Sud. Grand pédagogue, vous êtes professeur honoraire du Conservatoire de Paris. Vous enseignez à l'École supérieure de musique de Barcelone, professeur honoris causa au Conservatoire supérieur de Shanghai et vous donnez des masterclass sur plusieurs continents. Vous êtes aussi directeur artistique du festival Piano Pic à Bagnères-de-Bigorre. Votre discographie comporte des œuvres de Bach, Mozart, Schubert, Alcan, Messiaen, Stravinsky, Mendelssohn et Beethoven. Pierre Réac, c'est un projet vraiment magnifique d'enregistrer cet Himalaya ou cet Everest du piano que constituent les 32 sonates de Beethoven près d'un siècle après Arthur Schnabel, qui a été, je crois, le premier à la réaliser au disque. À quand remonte votre passion pour Beethoven, Pierre Réac ?
Oh, mais vous savez, depuis que j'étais tout petit, parce que mes parents m'avaient amené, je crois que j'avais 4-5 ans, je jouais déjà du piano, je pianotais, comme on disait, comme beaucoup d'enfants. J'avais un professeur, j'étais attiré par la musique. J'avais l'oreille absolue, ce qui étonnait toujours un peu autour de moi. Mais c'était surtout, oui, mais c'était surtout une date mémorable pour moi. Je me rappelle pas exactement le mois. En tout cas, c'était dans l'année 1954. J'avais donc 5 ans et demi que mes parents m'ont amené à un récital de Wilhelm Kempff, qui jouait des sonates de Beethoven à la salle Pleyel. Et évidemment, ça remonte loin. Mais je me souviens que ce qui m'avait le plus impressionné, c'était pas seulement peut-être plus que la musique que j'avais réellement entendue, c'était le personnage de Wilhelm Kempff, tellement royal. Il était assez grand et il venait avec une démarche tout à fait qui n'appartenait qu'à lui. Et j'avais été très impressionné par son frac, son habit et cette manière tellement extraordinaire de s'asseoir devant le piano. Il jouait les yeux fermés, la tête toute droite, il ne regardait pas son clavier. Et je m'étais dit, ah, je veux faire ça. Je me rappelle qu'en rentrant, j'avais mis avec une punaise sa photo au-dessus de mon lit. J'écoutais les disques de Kempff qui, à l'époque, commençaient à sortir régulièrement. Et c'était effectivement des sonates de Beethoven. Alors, en fait, c'est pas parce que c'était Beethoven. C'était parce que c'était la musique que j'écoutais quand j'étais tout petit, qui m'a bercé le dimanche matin. Mes parents remettaient ces mêmes disques. Toute la famille, avec mes frères et sœurs, on écoutait ça. Et donc, voilà, ça remonte à vraiment à mes tout premiers débuts de, pas début, mais je dirais mes toutes premières sensations physiques de musicien, c'était Beethoven par Kempff que j'avais entendu en chair et en os, je dois dire, dans un, concert où j'ai quelquefois encore aujourd'hui des flashs de ces impressions qui me reviennent régulièrement.
Un souvenir très mémorable, Pierre Réac.
Oui, je peux dire que ça m'a marqué. Et alors, pour continuer sur la lancée de votre question, après j'avais des parents assez angoissés qui étaient un peu affolés petit à petit de voir un garçon qui était de plus en plus attiré par le piano et la musique. Et ma mère avait très peur de tout ça. Elle était très proche d'un ami musicologue qui lui disait « Mais attendez, on ne vit pas de la musique aujourd'hui. » Elle avait d'ailleurs pas tout à fait tort. C'est un métier quand même très, très, très difficile et compliqué. Et ce qui fait qu'ils m'ont obligé à faire ce fichu baccalauréat, même en plus en série mathématique, alors que j'étais attiré un peu par l'astronomie et les sciences, mais je n'étais pas particulièrement bon en mathématiques. Et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle au lycée les horaires aménagés pour les jeunes qui veulent combiner à la fois l'enseignement secondaire et jusqu'au baccalauréat et l'étude d'un instrument. Alors, ce qui fait que je peux dire vraiment que je n'ai pas eu vraiment de jeunesse, d'enfance et de jeunesse pour aller rire, jouer au football, m'amuser avec des camarades, parce qu'à peine les devoirs étaient terminés, il fallait vite. Je me rappelle même, j'étais déjà en robe de chambre après le dîner, encore faire une ou deux heures de piano. Parce que dès l'âge de 10 ans, j'étais pris entre les mains d'Yvonne Lefébure. En leçon privée, il n'était pas encore question d'entrer au conservatoire avant le baccalauréat, mais j'ai eu donc une
grande beethovenienne d'ailleurs.
Une grande merveilleuse beethovenienne, pas seulement beethovenienne, mais enfin Beethoven, non. Elle disait elle-même Beethoven est mon homme, je me rappelle, elle racontait, elle disait toujours ça, c'était sa manière de parler, elle jouait admirablement Beethoven, c'est sûr, et j'ai été un peu élevé, donc toute mon enfance, toute ma jeunesse a baigné dans la musique de Beethoven, c'est certain.
Alors nous allons vous écouter, Pierre Réac, dans une pièce absolument célébrissime, c'est le premier mouvement de la sonate opus 27 numéro 2, Clair de Lune. Thank you. Notre invité en balade musicale, le pianiste Pierre Réhac, vient d'interpréter l'Adagio Sostenuto, premier mouvement de la sonate Claire de Lune de Beethoven. Ce second volume de trois disques contient 9 sonates, dont la première, opus 2. Beethoven est alors à Vienne. C'est un jeune pianiste, virtuose, très apprécié dans les salons de l'aristocratie, n'est-ce pas, Pierre Réhac?
Oui, il était un jeune pianiste virtuose, comme vous venez très justement de le dire. Il était apprécié, bien qu'il avait son caractère déjà très revendicatif, pas toujours de bonne humeur. Enfin, il avait une personnalité qu'on entend dès les premières œuvres. Mais il n'était pas, et je m'empresse de le souligner, un enfant prodige, comme par exemple Mozart. Où il y a eu tout à coup, on entendait, Mozart était tout jeune, encore enfant, il était capable d'écrire des choses qui étaient des véritables perfections de beauté d'écriture. Beethoven avait ce côté un peu tâcheron, un peu d'élaborer les choses, de les penser avant de les écrire. Et il était certainement quelqu'un de très très brillant, mais avec toujours cette volonté de changer. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont parlé de ce verbe « werden » en allemand, qui veut dire, enfin, « devenir », c'est toujours difficile de traduire, mais il y a ce mot « werden » dans l'œuvre de Beethoven tout le temps. Alors, il était brillant, il était un pianiste virtuose, il jouait aussi très bien de l'alto et du violon, mais il était aussi un travailleur acharné, il voulait toujours faire mieux, et je crois qu'il était pas toujours bien perçu par son entourage. Il était très exigeant, finalement, et pas toujours très aimable.
Oui, c'est en tout cas ce qui peut apparaître quand on lit sa biographie.
Oui.
C'était aussi l'élève de Joseph Haydn, qui était le plus grand musicien de l'époque.
Et alors, non seulement il était élève, mais je le dis toujours moi-même à mes élèves, c'est pas du tout que je me prenne pour Beethoven, loin de là, mais je veux dire qu'il y a quand même une transmission dans la musique, et je crois qu'il faut être inspiré pour pouvoir jouer soi-même. Je veux dire inspiré par quelqu'un. Moi, j'ai été très inspiré par mes professeurs. Et Beethoven était très, très inspiré par Haydn, beaucoup plus que par Mozart, par exemple. Encore que Mozart avait, lui, une grande admiration pour Beethoven. Il paraît que Mozart a dit de Beethoven, « Ah, on entendra parler de lui. »
C'était pas vraiment trompé.
Non, et Beethoven adorait Bach, évidemment. Mais je pense quand même que Haydn, les premières sonates, pas seulement des œuvres pour piano, mais même dans la musique de chambre. Je pense notamment aux trios, aux sonates pour violon, même peut-être, pourquoi pas, les deux premières sonates pour violoncelle et piano. Je crois que l'influence de Haydn est énorme, de même que Haydn mérite d'être davantage connu, parce qu'il y a déjà des choses tellement beethoveniennes, tellement modernes dans la musique de Haydn. Je pense par exemple, en ce qui concerne l'œuvre pour piano, les variations en fa mineur, où il y a cette fin tragique qui est tout à fait, qui pourrait être écrite par Beethoven. Et là, je crois que la parenté vraiment entre Beethoven et Haydn est très 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 importante.
Alors on va vous écouter, Pierre Réhac, dans le final prestissimo de la première sonate, opus 2 de Beethoven, qui reste quand même sous l'influence de Haydn.
Oui. Thank you.
C'était le final de la première sonate pour piano de Beethoven par notre invité Pierre Réac, un extrait de ce magnifique triple album par lequel vous poursuivez l'enregistrement de l'intégrale des 32 sonates. Nous étions au cœur de ce que les spécialistes définissent comme étant la première période créatrice de Beethoven, n'est-ce pas ?
Oui, on a l'habitude de dire qu'il y a trois manières, trois périodes dans la musique de Beethoven. Je suis à la fois pour et contre ce classement entre guillemets. C'est sûr qu'il y a la deuxième manière qui suivra donc celle où on était maintenant avec la première sonate est déjà à l'aube du romantisme. De même qu'il y a après cette troisième manière, on en parlera tout à l'heure avec l'opus 109, ce côté déjà métaphysique et de recherche très moderne, presque un peu laboratoire parfois, du phénomène sonore, on pourrait dire, et qui a influencé jusqu'à Debussy. Mais d'un autre côté, c'est là où je dis que je n'aime pas tellement ce classement, c'est justement, on vient d'entendre le final de la première sonate, et je crois que les auditeurs ont senti, en tout cas je l'espère, ce côté rugissant qui déjà annonce la passionnata. Et la première sonate, qui est également en fa mineur, comme la passionnata, qui était écrite donc plusieurs années après, a déjà ce côté farouche, ce côté revendicatif, ce défi, ce sentiment de défi permanent, de lutte aussi, qui triomphe dans la passionnata. Alors en fait, je crois qu'un grand compositeur, un grand génie, comme Beethoven et comme sont tous ces grands génies qui nous ont tellement marqués, ont une telle personnalité qu'elles se retrouvent déjà dans les premières œuvres, de même qu'ils ne l'abandonnent pas, ils ont leur manière. Peut-être c'est le matériau, le langage qui change un peu, mais la touche beethovenienne, la personnalité profonde,
elle était là
déjà.
Oui. Et alors, notamment dans la Claire de Lune qu'on a entendue au début de cette émission, et avec dans la pastorale qu'on va écouter maintenant, c'est tout de même, il y a une évolution qui se passe par rapport à la première sonate.
Oui, forcément, mais je crois que tout être humain, d'ailleurs musicien ou non, évolue. Et nous, les musiciens, nous avons toujours, maintenant que le disque existe, enfin ça fait longtemps qu'il y a des disques, mais cette possibilité qui n'existait pas à l'époque de ces grands compositeurs, de pouvoir se réécouter. D'ailleurs, je déteste personnellement, je le dis très modestement, réécouter mes disques, parce que on évolue, on change. Les œuvres, les grands chefs-d'œuvre sont pour moi des trésors inépuisables. Je joue souvent les variations Goldberg de Bach qui sont pour moi l'exemple type de quelque chose qui vous accompagne tout au long de votre vie, les sonates de Beethoven évidemment aussi, et on se rend compte qu'on les aborde différemment suivant les époques de sa vie. Et par exemple la sonate Appassionata, je la jouais quand j'étais jeune beaucoup et je la joue tout à fait différemment maintenant, et je dis pas que je la joue mieux, je dis que je pense qu'on la joue différemment. Et de même que nous avons tous des visions différentes de tels phénomènes de la nature, je dirais même dans nos jugements dans la vie, même pourquoi pas sur ce qui se passe dans le monde, on évolue avec son temps, et je crois que rien n'est pire que de rester sclérosé, figé, bloqué dans une idée fixe comme ça, de ne pas vouloir évoluer avec les choses et les gens.
Alors on va écouter tout à l'heure la passionnata, mais on va commencer par le final rondo de la pastorale sous vos doigts, Pierre Réac. Thank you. Beethoven sur IDFM Radio. C'était le rondo final de la sonate opus 28, dite pastorale, par notre invité, le pianiste Pierre Réac.
Je voudrais je me permets de vous interrompre pour bien rappeler à nos auditeurs que ces titres de sonate ne sont pas de Beethoven. Je vais vous raconter une chose qui va faire sourire, mais il faut le raconter parce que c'est assez extraordinaire. Il y a une des sonates qui s'appelle la sonate Aurore, comme une aurore. Et je me rappelle, par exemple, sur les disques de Yves Nat, très, très grand pianiste beethovenien, c'était marqué sonate Aurore, opus 53, où c'était marqué dite Aurore, parce qu'évidemment, le mot Aurore n'était pas de Beethoven. Alors, comme il y a un thème à la fin de cette sonate qui, effectivement, peut, vous savez, très beau, très calme, comme ça, avec quelque chose qui s'anime de plus en plus, les Français, auditeurs, les premiers auditeurs ont dit « Ah, mais c'est vrai, c'est tout à fait une aurore ». Et ce titre a été donné, qui n'était pas de Beethoven, à cette sonate, et on le voit encore aujourd'hui. Entre guillemets ou entre parenthèses, après, dans les programmes des concerts. Et en vérité, je crois que c'est Romain Rolland qui raconte ça, ce sont les contemporains de Beethoven qui ont dit « Die Sonate ist eine Aurore », cette sonate est une horreur, et les Français avaient pensé que c'était une aurore, c'est l'aurore, parce qu'effectivement, il y avait ce thème montant, un peu comme le soleil qui se lève sur l'horizon le matin, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces titres. On parlait de la sonate claire de lune, évidemment, ce n'est pas du tout de Beethoven. La pastorale que vous venez d'évoquer, c'est pas du tout de Beethoven, encore qu'on comprenne que ce côté un peu pastoral, effectivement, on le sent dans
c'est pas faux. Là.
Un peu comme il y a la symphonie pastorale, même Beethoven. Par contre, appassionata, le mot appassionata est sur le manuscrit. Ça, c'est un mot de Beethoven que Liszt, d'ailleurs, a repris dans son étude appassionata, également en fa mineur. Dans les études transcendantes, il y a une étude qui s'appelle appassionata. Et certainement, Liszt, qui adorait Beethoven, a pensé à Beethoven en mettant ce titre.
Merci de ces précisions.
Mais il faut faire attention avec les titres. Et il faut faire aussi attention parce qu'ils peuvent vous influencer. Et Beethoven aurait été furieux, sans doute.
On le connaît. On l'imagine. Il n'est malheureusement plus là pour nous faire des yeux noirs. Alors, pourquoi est-ce important, Pierre Réac, d'interpréter l'intégralité des sonates de Beethoven?
Vous savez, je ne le fais pas parce que c'est une intégrale. D'abord, en général, je n'aime pas tellement les intégrales. Chez moi, les disques que j'ai, c'est toujours par des interprètes différents, parce que je trouve qu'un tel est merveilleux dans celle-là, l'autre dans celle-là. C'est pas. Mais c'est tout simplement parce que j'adore Beethoven plus que tout autre, et je crois que je m'étais juré quand j'étais petit d'arriver à jouer toutes les sonates. D'ailleurs, je préfère, au lieu de dire le mot intégral, je dis toutes les sonates de Beethoven, parce que quand on dit toutes les sonates, c'est comme on dit j'ai tout mangé ou j'ai tout vu. Enfin, quand on est enthousiasmé par quelque chose, on peut pas s'imaginer ne pas le faire en entier. Mais le mot intégral, parce que quelquefois, le mot intégral pourrait faire croire qu'on a voulu regrouper pour faire absolument tout, des choses bonnes et mauvaises. Or, toutes les sonates de Beethoven, elles sont toutes là parce que toutes sont géniales. Et toutes vous prennent vraiment aux tripes, je
pourrais. Alors, il y a des chefs-d'œuvre absolus, comme par exemple la sonate opus 57, dite Appassionata. Là, c'est un chef-d'œuvre magnifique.
Oui. C'est un chef-d'œuvre dans toutes les dimensions, parce que d'abord, c'est une immense sonate, elle est redoutable, elle est très difficile, elle est merveilleuse, elle est très très émouvante. Elle a souvent été jouée même par des très grands pianistes, à mon avis, je pense notamment à Richter, le Sviatoslav Richter, le grand pianiste, d'une manière extrêmement violente, peut-être un peu trop, et d'autres pianistes, puisqu'on parle justement des pianistes russes, je pense à Gil Els, en ont donné quelquefois un éclairage beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus inattendu, je dirais. Rubinstein aussi. Et Barenboim, enfin tous les grands pianistes jouaient, Serkin jouait, Peraya aujourd'hui, Andrashiv, enfin il y a des appassionata extraordinaires. Mais le mot appassionata que Beethoven a mis, on le comprend, parce que c'est évidemment extrêmement passionné, mais vous avez prononcé le mot romantique tout à l'heure, et je parlais souvent de ce mot avec Paul Badura-Skoda. Il faut faire attention avec ce mot-là, parce que souvent quand on dit romantisme, on croit que ce sont des choses d'amour, des déclarations, des roubateaux à tourner. C'est pas ça du tout. Le romantisme, c'est, et c'est pour ça que la musique germanique, aussi la musique russe en est tellement imprégnée, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans un côté logique. Il y a quelque chose de surprenant, de parfois mystérieux, un don total, et on ne sait pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, à mon avis, dans un opéra comme l'opéra de Don Giovanni de Mozart, il y a déjà des choses romantiques dans ce sens-là. Ah oui. Mais romantique. Et c'est pour ça que moi qui ai eu la chance, c'était une des grandes chances de ma vie d'avoir les conseils de Rubinstein. Et Rubinstein disait toujours, attention, on a, Chopin doit être joué très rigoureusement. Et c'est dans la rigueur qu'apparaît le côté qui fait que ça vous prend aux larmes, jusqu'aux larmes, tant c'est beau et émouvant. Mais ce n'est pas en faisant des effets de rubato ou de changer des, ou de, d'étendre tout à coup, de vouloir faire des effets avec un petit E. C'est quelque chose qui n'est pas. Et la sonate de Appassionata de Beethoven est romantique peut-être par cet éclairage déjà, incompréhensible, c'est-à-dire une porte ouverte vers quelque chose qui nous dépasse. C'est là où il est très moderne. Si
je... Alors, on aurait envie de l'écouter dans son intégralité, mais évidemment, c'est pas possible dans le cadre de cette émission, mais ça va donner, j'espère, envie à nos auditeurs d'acquérir votre triple album qui est vraiment, c'est vraiment magnifique, c'est sublime. On passe, on écoute trois disques de Beethoven, c'est absolument magique. Alors, on va donc écouter, on va se cantonner, si j'ose dire, c'est difficile avec la Passionata, avec le troisième mouvement, l'Allegro, sous vos doigts, Pierre Réac. Nous écoutions le troisième mouvement de la sonate Appassionata de Beethoven par notre invité, le pianiste Pierre Réac. Quelle impression de force se dégage de cette musique et de votre interprétation, il faut le dire aussi. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on joue les sonates de Beethoven, Pierre Réac ?
Beaucoup de choses, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut éviter beaucoup de choses. Et en fait, ce que je crois, c'est que dans le travail, il faut pas travailler en disant « je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela ». Il faut faire en sorte que ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, soit dans une direction qui correspondent exactement à l'idée que vous avez de ce compositeur et de sa musique. Et je pense que dans la musique de Beethoven, il y a un élément qui n'est pas, à mon avis, si souvent commenté, évoqué. Dieu sait qu'on parle souvent de Beethoven. Mais Beethoven a beaucoup souffert, je crois, de dans les dernières décades, et même le siècle dernier, d'une réputation d'un compositeur peu aimable, certainement dramatique, mais parfois de très mauvaise humeur, et je dis le mot « agressif ». Et je crois que cette agressivité, il faut définitivement la bannir de la musique de Beethoven. Je crois que, puisque vous me disiez éviter, je crois que la musique de Beethoven, même dans les plus grands fortissimo, est toujours contrastée, mais jamais agressive. Parce que la violence n'est pas agressive. La violence, c'est la violence d'un coup de tonnerre dans la nature avant un orage. C'est la violence d'un déchirement, d'une déception amoureuse, avec toutes ses conséquences dans notre vie, à chacun de nous. Il y a des choses violentes dans la vie, mais l'agressivité, c'est autre chose. L'agressivité est quelque chose d'abord de volontaire, et je dirais même d'artificiel, parce que c'est destiné à blesser ou à faire mal. Tandis que de subir la violence de la nature, ou la violence des sentiments, ou la violence d'une très grande personnalité, c'est pour moi une sorte de compréhension ultime d'un grand message. Alors, pour répondre à votre question, que faut-il éviter? Je dirais que l'agressivité, il faut l'éviter partout. D'ailleurs, dans la musique contemporaine, ce sont les œuvres non agressives que j'aime. S'il y a agressivité, je n'aime pas. Il y avait un grand violoncelliste qui s'appelait Pierre Fournier qui disait « Oh, vous savez, la musique contemporaine, je n'aime pas parce que je n'ai pas envie d'entendre dans une salle de concert les mêmes bruits que dans la rue. » Alors, bon, c'était exagéré parce qu'il y a une musique contemporaine merveilleuse et j'en sais quelque chose parce que j'ai beaucoup joué, j'avais gagné le concours Messiaen et Yvonne Loriot m'avait initié à cette musique que je ne connaissais pas à l'époque. Mais je crois, même, je me souviens que même quand je jouais de la musique dite contemporaine, je la faisais comme de la grande musique et pas du tout en voulant faire le plus de bruit possible. Alors, d'abord, il faut éviter cette agressivité, et je crois qu'il y a alors là une obligation plus que jamais, peut-être encore plus chez Beethoven que chez les autres, étant donné que Beethoven nous fait assister, comme je vous le disais, et je pense que c'est un peu vrai dans le début de notre émission, il nous fait assister à son évolution. Ce n'est pas un état de grâce, quelque chose déjà de parfait, comme une apparition, comme ça peut arriver chez Mozart ou Chopin. Il nous fait assister à son évolution. Je pense par exemple l'adagio qui précède la grande fugue de la Hammerklavier, ou même par exemple les deux arioso dans l'opus 110 qui est dans ces disques, qui amène ces fugues, et après la fugue elle-même est une élaboration qui progresse petit à petit. Je crois que la chose la plus importante, c'est qu'il faut respecter, mais alors de la manière la plus sérieuse possible, le texte, et notamment les valeurs rythmiques, de savoir écouter les silences. Je crois que, donc, pas d'agressivité, et le texte. C'est ce que je dis à mes élèves, et je trouve que même très doux, Beethoven a écrit plein de pianissimo sur ces partitions de dolce. On voit le mot dolce si souvent et on entend souvent les gens jouer fort. On se demande pourquoi.
Alors on va passer à ce qu'on appellerait une petite sonate, entre guillemets bien sûr, la sonate à Thérèse, où là il n'y a pas d'agressivité.
D'abord il n'y a pas d'agressivité parce que Thérèse von Brunswick est une des cinq candidates, je peux dire, à ce titre de immortelle bien-aimée. Alors que Balu Raskola, qui était un grand spécialiste musicologique, en plus de son talent d'interprète, disait qu'on ne saura jamais qui était cette immortelle bien-aimée, parce que Beethoven ne l'a pas nommée dans ses lettres. On sait seulement qu'elle était à Prague, parce que Beethoven était à Prague à ce moment-là. Donc, on suppose que c'est Joséphine Brentano, mais on n'en est pas du tout sûr. Et moi, personnellement, j'aurais aimé que ce fût Thérèse. Parce que, justement, il y a une telle tendresse, une telle douceur, dans le premier mouvement de cette sonate, comme une interrogation, comme un appel, je pense qu'il devait être très, très amoureux et épris de Thérèse von Brunswick. Mais évidemment, le final est brillant parce que c'est une sorte de joie, d'allégresse, presque dansante de Beethoven qui espérait tellement pouvoir avoir Thérèse von Brunswick comme femme de sa vie. Alors, est-ce qu'elle fut l'une des cinq possibles? On ne sait pas. Moi, j'aurais aimé. On ne sait pas. Padua Raskoda pensait que c'était Joséphine Brentano. Enfin, c'est comme ça.
On va vous écouter, Pierre Réac, dans l'Allegro vivace de la sonate dite à Thérèse de Beethoven. C'était le final de la sonate opus 78 à Thérèse, extraite de ce second volume de ce qui sera une intégrale des 32 sonates par notre invité Pierre Réac. Quand aurez-vous achevé cette intégrale, Beethoven, Pierre Réac ?
Écoutez, je ne sais pas du tout. Parce que je ne voudrais pas me presser. Et à ce sujet, je voudrais vous dire une chose qui... je peux dire quelquefois que j'ai un peu honte de le dire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé mon piano pendant la pandémie, où on ne pouvait pas sortir de chez soi. Je parle notamment de l'année 2020. J'avais le choix. Il n'y avait plus de concerts. Tout était annulé. J'étais inquiet sur le plan économique, comme beaucoup de mes collègues, parce que c'était un manque à gagner. J'avais plus rien à faire. Et je pouvais ou bien sombrer dans la dépression la plus totale. J'ai eu des moments de déprime, de moments de désolation, en disant c'était déjà très dur avant, maintenant qu'est-ce que ce sera ? Et j'ai eu beaucoup de courage, je crois, et j'ai travaillé mon piano alors que d'autres... je me rappelle, j'étais au piano et on entendait les applaudissements pour les médecins à 8h du soir.
Ah oui.
Et on savait tout ce qui se passait, on entendait les nouvelles, on n'osait pas écouter les nouvelles, tant c'était affreux de voir tous ces gens qui étaient dans les couloirs d'hôpitaux, ou bien à être malades, ou même à mourir. Et moi j'ai eu la chance de passer un peu au travers, en tout cas encore jusqu'à maintenant, j'espère que ça continuera, de cette terrible épidémie, et qui a fait beaucoup beaucoup de victimes, et j'ai eu la chance de travailler mon piano et de prendre mon courage à deux mains. Et je peux vous dire que je m'en félicite, j'en suis heureux de l'avoir fait, parce que je me rends compte que ça m'a appris à travailler d'une manière, je dis, désintéressée, parce qu'il n'y avait pas de date de concert, il n'y avait pas de billets de train ou d'avion à prendre, il n'y avait pas à inviter des gens qu'on dirait « Ah, on aimerait que vous soyez présents au concert parce que je joue telle date, etc. » Il n'y avait plus rien. Donc, il n'y avait que la partition, et il y avait le fait de se faire plaisir à soi-même, c'est-à-dire dans la mesure où j'adorais plus que tous ces sonates, et je pense que et c'est là où je dis, j'ai honte de le dire, c'était une période tellement difficile pour le monde entier, et moi, je crois que j'y ai bien travaillé. Et ça a été pour moi une période des plus réussies, entre guillemets, dans mon travail, parce que je voulais faire des sonates de Beethoven depuis très très longtemps, mais le travail de base, principal, disons la concrétisation de ce projet, est venu pendant la pandémie.
Donc ça a été effectivement un point, on peut le dire, très positif.
Oui, j'aime pas le dire, mais vous savez, il y avait
entre guillemets
en 2020, c'était le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven.
Mais oui.
Et tous les concerts étaient annulés. Et j'ai eu une fois, j'ai rêvé, je vous jure que j'ai rêvé ça, que je voyais Beethoven qui disait vous vouliez me célébrer, et ben vous ne le méritez pas. Et tous les concerts étaient annulés. J'ai dû faire un rêve comme ça, et je me dis c'était pas forcément un hasard.
Tout drôle de caractère, ce Beethoven.
Oui.
Alors on va revenir justement sur sa personnalité, parce que voilà, avec cet homme qui avait une surdité terrible, c'est affreux pour un compositeur et virtuose en plus.
Oui.
Alors en fait, Beethoven, c'est pas seulement justement cet homme qui avait un caractère très difficile, mais c'était aussi, et vous le soulignez, je crois, un homme d'une profonde humanité.
Non seulement il était une profonde humanité par sa culture, je crois qu'il avait une bonté, une générosité absolument incroyable. Il y a des œuvres où on sent, je pense par exemple au deuxième mouvement de la sonate pathétique, à l'andante de l'opus 109, le début du quatrième concerto de Beethoven. Il y a des moments qui vous donnent les larmes dans les yeux tant il était bon. Mais il avait, c'est sûr qu'il était d'un abord peut-être difficile, il devait être très exigeant, mais il y a même pour moi un côté, je dis le mot christique quelquefois. C'est pas du tout qu'il était religieux, il n'était pas du tout religieux, ni surtout pas mystique comme Bach l'était par exemple, ou dans les temps modernes, l'époque contemporaine, Olivier Messiaen. Mais il avait un besoin de tout donner, c'est là où il est romantique, parce que dans le romantisme il y a ce sentiment de tout donner à... Alors lui c'était pas... pour une personne, encore qu'il était très attaché à son neveu, mais c'était pour toute l'humanité. Et je ne parle pas seulement de l'ode à la joie, nous sommes tous frères...
De
Schiller. C'est pas seulement ça, de Schiller. C'est pas seulement ça, c'est le besoin de donner pour être heureux. Et on sent chez Beethoven, et je me dis que chez les très grands interprètes, j'ai senti ça, aussi les chefs d'orchestre, il y a un besoin, dans certaines symphonies par exemple, de tout donner. C'est un message pour toute l'humanité d'amour, finalement. Je crois que le sentiment d'amour est très présent dans la musique de Beethoven, c'est-à-dire l'amour du prochain, mais pas d'une manière égoïste pour l'avoir à soi, mais d'une manière de fraternité. Il y a une fraternité beethovenienne, et il était aussi, il faut pas l'oublier, très attaché, très intéressé par les philosophies d'Extrême-Orient. Il y a un quatuor. Les quatuors de Beethoven sont merveilleux. Quand on entend, par exemple, le deuxième mouvement de... Il y a trois quatuors qui s'appellent Rasoumovsky, parce qu'ils étaient dédiés au contre Rasoumovsky, opus 59. Et le mouvement lent du premier quatuor est incroyable. Il y a par exemple aussi le troisième en do majeur de cet opus, ou alors tous les derniers quatuors, ils sont d'une telle bonté. C'est une musique qui pleure en disant « mais aimez-vous ?» Et je crois que celui qui a suivi ça de très près, il le disait lui-même, c'était Schubert, dans sa musique de chambre.
Pour illustrer votre propos, Pierre Réac, écoutons l'andante de la sonate opus 109 qui figure dans le premier volume paru en 2021 et inaugure la série des trois dernières sonates. Nous écoutions l'andante de la sonate opus 109 de Beethoven par notre invité, le pianiste Pierre Réac. Alors là, vraiment, on est de plein pied dans la dernière période créatrice, je crois qu'on peut le dire, de Beethoven, qui, pour le piano, va s'achever avec l'opus 111. Une sonate en deux mouvements, mais quel mouvement ? Le premier mouvement, c'est le bruit, la fureur et la dureté de la vie terrestre, comme l'écrit le musicologue et homme de médias Olivier Bellamy dans les notes de votre premier volume. n'est-ce pas? C'est ça qu'on peut ressentir.
Oui, je dirais de la dureté de la vie terrestre, oui, je dirais tout simplement de la condition humaine. Parce que la condition humaine, je trouve d'ailleurs Beethoven est un peintre de la condition humaine, c'est-à-dire que c'est pas qu'il décrive des moments. Vous savez, il y a de toute façon des choses, par exemple les opus 31, qui sont des, notamment la troisième et les 13 enjoués, au même moment il écrivait le testament d'Heiligenstadt. Donc on a, les grands génies ont des vies parallèles, comme ça. Il peut être très bien avoir une façade extérieure assez heureuse, et en vérité être dans un drame intérieur qu'on ne peut pas imaginer. Mais la condition humaine, Beethoven nous la fait vivre à chaque instant. Un peu comme le peintre Rembrandt, par exemple, qui, pour moi, il y a beaucoup de points communs entre ces deux créateurs. Et je crois que, effectivement, ce premier mouvement est une sorte, c'est ce côté de révolte, de défi, de montrer la force de la lutte contre l'adversité des éléments, parce que l'adversité est omniprésente, et de garder justement ce sentiment d'amour, cette volonté farouche. Ça, c'est ça, ce premier mouvement, je crois.
Et puis ensuite, l'Arietta, c'est tout autre chose.
Alors, l'Arietta, c'est vraiment, on est au ciel. C'est pour moi une grande méditation philosophique où on sent aussi cette bonté, mais alors cette bonté qui s'est finalement transcendée en un message d'espérance, on peut dire, qui touche à l'éternité. Et on ne peut plus rien jouer après cette sonate. Et c'est célèbre dans l'histoire de la musique qu'un témoin, un contemporain, avait demandé à Beethoven, mais vous n'avez pas écrit le troisième mouvement. Et Beethoven ne voulait même pas se fâcher. Il a dit, vous savez, j'ai pas eu le temps. Parce qu'apparemment, cette personne n'avait pas compris qu'après un tel message si bouleversant, et qui touche vraiment à quelque chose de qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Je pense qu'on peut parler d'éternité, de quelque chose qu'on voudrait voir ne jamais s'arrêter. Dans le théâtre, dans le cinéma, on trouve aussi des moments comme ça. Je crois que effectivement, ce sont les deux pôles de cette condition humaine faite de souffrance finalement et de très très grande espérance. Presque religieuse, en tout cas métaphysique, de cette Arietta, de ce second mouvement, qui est donc un Arietta, il appelait ça Arietta, un petit air avec des variations. Mais quelles variations ?
Eh bien, on va rester, si j'ose dire, dans la souffrance, mais ce n'est pas la souffrance, c'est un plaisir de pouvoir vous entendre dans Beethoven, dans le premier mouvement de l'opus 111, la dernière sonate du Maître de Bonn.
Thank you.
premier mouvement de la dernière sonate, opus 11 de Beethoven, par notre invité Pierre Réac, un admirable extrait du premier volume de sa future intégrale des 32 sonates, dont les deux premiers volumes ont été publiés par le label Anima Records, avec vraiment un enregistrement techniquement remarquable, je dirais dû à l'excellent Étienne Collard. Il faut tout de même rendre à César ce qui lui appartient. Pierre Réac, vous avez des dates de concerts et de festivals ?
Oui, alors il y a un festival auquel je suis très attaché parce que c'est moi qui l'ai créé avec un de mes grands amis qui est le médecin, le docteur Christophe Baillet, qui vit dans les Pyrénées, qui m'avait proposé il y a déjà longtemps, puisque c'était en 1997, de créer avec lui ce festival qui s'appelait d'abord Piano aux Pyrénées et qui après est devenu Piano Pic parce qu'en face de Bagnères de Bigorre, il y a la célèbre montagne, le Pic du Midi, où on avait fait monter en 1997, donc pour le lancement du festival, un piano par hélicoptère, parce que le téléphérique n'existait pas. Et c'était impressionnant de voir cet hélicoptère qui s'était posé comme une plume sur la terrasse de l'observatoire, et j'avais joué sous un froid glacial. Et depuis, on fait chaque année, un peu en hommage, enfin comme une sorte de pèlerinage, on remonte chaque année pour un des concerts de ce festival Piano Pic. Donc il y a lieu à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, on fait un des concerts à lieu sur cette terrasse précisément, mais alors là, oui, il y a le téléphérique, alors le piano peut monter d'une autre manière, moins dangereuse aussi, parce que de soulever un piano comme ça, c'était quelque chose dont on avait beaucoup parlé. Je me rappelle que TF1 était venu filmer, enfin c'était quelque chose de... Alors justement, pourquoi un festival et pourquoi plusieurs festivals, parce que dans ma vie j'en ai créé et organisé plusieurs, c'est parce que c'est le bonheur de faire jouer des artistes que j'aime. Et c'est pas du tout une question de copinage, parce que souvent, vous savez, les gens sont tellement méchants aujourd'hui, dès qu'on vous fait quelque chose, on vous le critique. Mais pas du tout. Ce sont des amis qui jouent, pas forcément. Je me suis fait quelquefois aussi des amis en invitant des artistes que j'aimais, et après, il y a eu une sympathie qui s'est développée. Mais je trouve que la musique doit être partagée, et je le dis en toute sincérité, ça peut peut-être faire sourire, mais je suis presque aussi heureux quand j'ai quelqu'un que j'aime qui joue, que j'ai pu inviter et faire entendre, que quand je joue moi-même. Et aussi, j'aime organiser, préparer, recevoir l'artiste, parler avec lui, faire en sorte qu'il se sente bien. Et ça fait partie un peu de mon métier d'organisateur. Et jusqu'en Chine, j'ai organisé des choses. Et je trouve que les musiciens, souvent, sont beaucoup trop égoïstes et ne pensent pas assez au fait que la musique doit se partager. Et cette passion doit se communiquer. Et j'ai eu, comme tout le monde, de grandes joies, parce que j'ai certains artistes qui me sont restés fidèles et d'autres qui sont venus là comme un concert comme un autre et qui ont disparu et que je n'ai plus jamais joué. Mais ça, c'est la vie.
Bien sûr.
Et je m'y suis adapté comme tout le monde. Mais en tout cas, et je rends hommage à toute l'équipe de ce festival là-bas et aussi à mon ami le docteur Baillet, de faire tenir un festival de cette qualité pendant 26 ans maintenant, c'est quand même un tour de force dans la conjoncture des temps actuels. Et il continue. On aura donc cet été, entre le 15 et le 29 juillet, à nouveau au même endroit et dans toutes les vallées avoisinantes, des grands moments de musique.
Alors, pour nos auditeurs qui partiraient en vacances cet été dans la région, on peut trouver tous les détails sur le site du festival.
Le site du festival qui est piano-pic.fr. Pic comme un pic, P-I-C, je répète, piano-pic.fr. Et c'est le festival donc, qui s'appelle Piano Pic, qui est dont l'épicentre, on pourrait dire, est à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Réac, merci beaucoup pour votre enthousiasme. Je crois que nos auditeurs pourront partager votre enthousiasme pour Beethoven, bien sûr, pour la musique, et puis aussi pour tous vos invités, parce que je crois que ça, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de pédagogue aussi.
Oui, vous savez, parce que j'ai eu tellement d'élèves pendant tout au long de ma vie, et je suis heureux de voir les gens heureux autour de moi, c'est bien normal. Alors, la musique a un pouvoir extraordinaire. Quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que d'aller écouter un beau concert ou d'écouter chez eux, même une œuvre qui leur plaît, avec laquelle on vit, qui vous accompagne finalement. Je trouve qu'il ne faut pas se priver de la musique, c'est trop merveilleux tout ce qu'elle peut nous donner.
Certainement pas, et c'est bien ce que nous pensons ici à IDFM Radio. Bonne journée, bon festival. Revenez nous voir pour nous présenter le troisième opus de votre intégrale Beethoven. Quant à moi, je suis heureux de retrouver nos auditeurs vendredi à 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique, et restez bien sûr à l'écoute de nos programmes d'IDFM Radio avec maintenant les informations.